Bonjour, chers amis, ici Gilbert Charon, qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette émission de jeudi, le 25 janvier 1996. En cette semaine de l'unité des chrétiens, j'ai le plaisir de vous présenter Notre-Dame de Souffagnet. Vous en avez probablement jamais entendu parler. Et il s'agit d'apparitions de la Vierge à Damas, entourée de phénomènes, de stigmates et autres. Et c'est un événement que j'ai étudié et auquel je crois personnellement, malgré ce que plusieurs dans notre auditoire pensent de mon attitude quant aux apparitions. Pour nous parler de ce très sympathique et ce phénomène rempli de lumière, de chaleur, de compassion et d'espérance, j'ai comme invité M. Melhem Moubarak, qui est très impliqué dans ce phénomène et que lui, comme moi, a été lui-même converti d'un scepticisme quasi systématique à une foi quand même éclairée et équilibrée. Alors, je vous présente Melhem Moubarak et Notre-Dame de Souffagnet après cette pause. Quel beau chant. Alors, M. Melhem Moubarak, je vous souhaite la bienvenue.
Merci. Merci, M. Charon. Je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir parler du phénomène de Notre-Dame de Souffagnet. Qu'il me soit permis de dire tout d'abord un petit mot sur le mot Souffagnet, qui est le nom d'un modeste quartier de Damas, situé à 150 mètres à peu près au nord de la muraille de la vieille ville. Damas elle-même, capitale de la Syrie, qui compte près de 3 millions d'âmes. Damas, ne l'oublions pas, lieu où saint Paul lui-même allait persécuter les premiers chrétiens et arriva lui-même chrétien terrassé par le Christ. C'est donc Damas le lieu de départ de l'évangélisation à travers le monde. N'oublions pas non plus, pour nos amis du Québec, que c'est là où se trouve le tombeau de saint Jean-Baptiste, patron des Québécois.
Monsieur Moubarak, vous avez apporté avec vous de la musique et on vient de l'entendre. De quoi s'agit-il?
C'est, je pense, un cantique qui est assez pertinent. Il dit textuellement que les enfants de la Vierge sont divisés. Prions, prions, afin qu'ils se réunifient.
Donc, c'est un message d'écuménisme. Un message qui souligne ce péché collectif des chrétiens, à savoir le péché de nos divisions, et qui souhaite évidemment que nous fassions tous les efforts pour nous unir.
Le message de Souffagnet, en effet, c'est une des composantes du message. Il y en a d'autres qui sont la prière, le pardon, la paix, et aussi le fait d'associer Marie au processus du salut.
Nous allons parler de d'une icône qui suinte de l'huile d'olive. Nous parlerons de tout ça. Nous allons parler de quelqu'un qui a eu des apparitions de la Vierge. Nous allons parler de quelqu'un qui a eu des messages du Christ. Nous allons parler de quelqu'un qui a été stigmatisé dans des circonstances assez particulières. Mais avant tout ça, Monsieur Moubarak, pourquoi est-ce que vous avez cru au phénomène de Sophanié? Et je dirai tantôt pourquoi moi j'y ai cru après vous avoir rencontré et comment j'y suis parvenu. Parce que je n'avais pas l'air, franchement, de quelqu'un qui part à toutes les rumeurs et qui court après l'extraordinaire. Et là, vous m'avez l'air de quelqu'un qui a les deux pieds à terre, même, j'oserais dire, un croyant assez rationaliste.
En effet, vous ne croyez pas si bien dire. Naturellement, j'ai été éduqué dans une famille de tradition chrétienne. Mais comme tout jeune de mon âge, surtout à l'âge de 18-19 ans, on essaye toujours de voler de ses propres ailes. J'ai donc même eu l'occasion de rencontrer à l'époque à Paris de grands philosophes comme Jean-Paul Sartre, puis plus tard en Allemagne, j'ai rencontré Martin Heidegger. Tout ça pour vous dire que rien ne me prédisposait, n'est-ce pas, à ce genre de phénomène et qu'au contraire, j'avais toujours été attiré par tout ce qui était cartésien. Mais peut-être ce qui m'a complètement désarmé dans Sophanié, c'est justement ce message évangélique, ce retour aux sources, cette simplicité des messages et en même temps de très haute portée théologique et qui demeure dans la stricte orthodoxie de l'Église universelle et dans la pure veine de l'Évangile.
Vous vous souvenez de la rencontre que nous avons eue lorsque vous m'avez parler de Notre-Dame de Sophanié. J'aimerais que vous décriviez à notre auditoire quelle était mon attitude à ce moment-là et enfin ce que j'ai dit que je ferais et que je vous ai fait part ensuite de ma décision.
Oui, en effet, vous me faites sourire parce qu'à l'époque, je crois que vous avez été assez correct avec moi, mais en même temps assez franc. J'ai cru percevoir en vous le sourire de l'homme sceptique et à juste titre peut-être, en me disant toutefois, pour ne pas trop me décourager, que vous me promettriez de garder une attitude assez ouverte et un esprit assez ouvert en lisant les documents et en voyant les bandes vidéo que je vous avais fait parvenir.
Et voilà. Et quelques semaines après, je vous appelais pour dire que, oui, nous ferions une émission et que nous la ferions pendant la semaine de l'unité des chrétiens. Et que, oui, je croyais dans toutes les limites de ce que ça veut dire, que c'était une opinion personnelle, donc une décision privée, de croire à ce phénomène de Sophanié. Et vous m'avez demandé à ce moment-là, mais pourquoi? Pourquoi j'avais cru, malgré la prudence dont je vous avais averti?
Oui, votre réponse, je pense, ce virage de 180 degrés, j'allais dire... je crois que vous me l'avez bien expliqué et je crois qu'il explique ce virus que je ne peux pas trouver d'autres mots. Le mot virus, je crois, est assez adéquat dans ce contexte. Ce qui frappe dans Sophanié, c'est la portée de certains messages, comme par exemple l'importance de la famille, l'importance qui est donnée à la famille, l'importance qui est donnée au message œcuménique. Ce sont naturellement des principes de l'Évangile, mais qu'il est bon en ces temps tellement troublés de rappeler, qu'il est bon de rappeler la cellule familiale, qui est finalement la cellule de l'Église. L'Église commence avec la famille, et c'est de là qu'elle se développe. Ça ne sert à rien de, n'est-ce pas, de vouloir rassembler tous les chrétiens, etc., et ceci et cela, mais on commence par rassembler sa famille, et une fois qu'on rassemble sa famille, on va un peu plus loin. Donc, c'est la cellule familiale qui est mise en évidence dans la plupart des messages de Sophanié.
Je me rappelle d'avoir dit aussi que c'était en examinant le dossier que vous m'avez donné. Évidemment, j'ai eu le privilège que nos auditeurs et auditrices n'ont pas, c'est celui de visionner des vidéos où médecins, scientifiques, théologiens, sont là et on voit évidemment apparaître les stigmates, on les voit aussi disparaître, on voit l'huile l'huile qui coule et de l'icône et des mains de Myrna, la personne que vous allez nous présenter tantôt. Il y a toute la convergence, comme vous venez de le dire, de la convergence, la cohésion des messages, de la théologie des messages, c'est-à-dire l'écuménisme comme étant fondamental à la marche de la foi chrétienne. Il y a toute la question de la joie dans la vie chrétienne. Croyez, pensez à moi, souvenez-vous de moi dans votre joie, fait partie d'un des messages. Alors que si vous écoutez cette émission, les gens nous disent que c'est très souvent dans la souffrance et dans l'échec qu'ils se souviennent de Dieu et reviennent. Alors que dans les messages de Souffanier, c'est souvenez-vous de moi dans votre joie, entre autres messages. Il y a l'autre aspect aussi, qu'à un moment donné, l'icône est transportée dans l'Église parce qu'on dit quand même quelque chose d'aussi sacré. Ne devrait pas être dans une petite maison privée de ce petit couple, mais devrait être dans la grande église de la ville. Et on a transporté en grande procession l'icône, et pendant les 47 ou 50 jours qu'elle était là, pas une goutte d'huile n'a suinté, et on l'a ramenée dans ce que notre pape Jean-Paul II appelle l'église domestique, les phénomènes ont repris et continuent, semble-t-il. Il y a le fait que on refuse tout argent. Il y a le fait que pendant un an, tout phénomène a été interrompu, il ne se passait rien, et quand même, la ferveur des gens ne s'est jamais contredite et a continué. Il y a tout ça. Mais je fais une mise en garde quand même que le fait que je crois. Et l'autre convergence très importante, et l'autre question très importante, c'est que toute la hiérarchie, la plus haute hiérarchie de l'Église locale est d'accord avec le phénomène, à titre privé, bien sûr, et bien plus que ça, que le nonce apostolique, toujours à titre privé, donc pas à titre d'interlocuteur valable ou porte-parole valable du Vatican, vient prier à Souffanier. Alors, il y a tout ça, j'ai toutes les raisons au monde de croire. Et j'ai même ici, si je me souviens bien, dans ce que vous m'avez, il faut dire que vous m'avez gâté de photos. J'ai ici une photo. Sa Sainteté Jean-Paul II accueillant avec bienveillance en 1993 l'icône de Notre-Dame de Souffanier, source de l'huile sainte des mains de l'ancien nonce apostolique, etc. Et il y a bien sûr ce dont on parlera tantôt, à savoir la signification extraordinaire de l'huile et la signification religieuse de l'huile. Alors tout ça pour dire à l'auditoire que je suis croyant et je ne suis pas crédule. Et voilà. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il se passe quelque chose en 1982, M. Moubarak, et là, j'aimerais que nos auditeurs et auditrices découvrent là, maintenant de qui il s'agit, de quel couple il s'agit, de quelle famille il s'agit, etc. Tout ça. Là.
Qu'est-ce qui se passe?
Oui.
Tout d'abord, si nous ne savions pas que c'était à Damas, si nous croyons que c'est vraiment l'ancienne capitale ou presque des mille et une nuits, nous croyons peut-être un conte de fées. Et je serais tenté de dire « il était une fois », mais sans jeu de mots, je dirais « foi » F-O-I. Mm-hmm. Ceci dit, j'aimerais peut-être expliquer c'est quoi le phénomène de Souffanier. Comme vous l'avez annoncé un peu plus tôt, il s'agit tout d'abord d'une jeune femme mariée, nous parlons de 1982, qui à l'époque avait 18 ans et était mariée depuis environ 6 mois. La jeune femme en question s'appelle Myrna Achras, qui avait épousé Nicolas Nazour, elle-même de rite catholique oriental et son mari de rite orthodoxe oriental. Le 22 novembre 1982, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse aussi pour dire que cette jeune femme n'était nullement prédisposée au phénomène qui allait suivre. Elle était aussi croyante que M. Dupont ou M. X ou Mme Y.
Un petit peu de croyant de tous les jours, un petit peu tout le monde.
Voilà.
Pratiquant, bon monde, vertueux, mais pas exalté.
Non, pas exalté, un peu presque par habitude, j'allais dire, ou bien par héritage. Toujours est-il que ce 22 novembre 1982, Myrna Nazour, du nom de son mari Nazour, était allée ce mercredi soir, comme elle le faisait chaque mercredi, assister à la congrégation de Marie à l'église de la Croix. À son retour, avec certains membres de cette congrégation, ils sont allés chez sa belle-sœur Leila, qui souffrait depuis de nombreuses années de douleurs chroniques et arthritiques. Elle était déjà allée à Londres, aux États-Unis, un peu partout pour se faire soigner, mais rien n'y faisait. Ceci dit donc, ils étaient là en train de prier chez elle à la maison, et tout d'un coup, une voisine musulmane qui assistait avec eux à cette prière, qu'il me soit dit entre parenthèses que les musulmans ont une dévotion spéciale pour la Vierge Marie qu'ils appellent Sitna Mariam, c'est-à-dire Notre-Dame Marie, et dont la dévotion parfois, hélas, excède celle de certaines dénominations chrétiennes. Ceci dit, je retourne pour dire que Myrna était donc en train de prier quand tout d'un coup Mayada, la voisine musulmane, lui dit « Mais Myrna, qu'est-ce qu'il y a sur tes mains ?» Elle regarde comme ça et puis elle met ses mains à son nez et puis elle dit « Mais c'est de l'huile !» En effet, de l'huile coulait à flot de ses mains. Elle avait ressenti quelques secondes plus tôt comme un frémissement à travers tout son corps et elle ne savait pas ce qui se passait en elle. Toujours est-il que les assistants lui ont dit « Écoute, c'est que vraiment, c'est peut-être un phénomène divin. Peut-être tu devrais apposer cette huile sur ta belle-sœur. » Alors, la première émotion passée, Myrna a frotté les endroits douloureux de sa belle-sœur avec ses mains imprégnées d'huile, et les douleurs ont cessé instantanément. Plus tard, son mari Nicolas est arrivé, et puis quand on lui a expliqué ce qui s'était passé, il a un petit peu ricané. En fait, il a éclaté de rire en disant à sa femme, peut-être as-tu mangé du labneh ou du makdous, qui sont des aliments orientaux qu'on cuisine avec beaucoup d'huile d'olive. Mm-hmm. Elle lui a dit, non, écoute, sois sérieux, etc. Plus tard, son beau-frère, le mari de Léla, devait venir. C'était la même histoire. Alors, toujours est-il que chaque fois qu'elle passait de nouveau, qu'elle était en prière ou qu'elle passait devant une icône de la Vierge, ses mains de nouveau exudaient de l'huile. Qu'il soit dit en passant que depuis ce jour, Leila n'a jamais ressenti les moindres douleurs dont elle s'était plainte depuis de nombreuses années. Le 25 novembre, c'est-à-dire 3 jours plus tard, la maman de Myrna lui dit « Écoute, tu as soigné ta belle-sœur, tu as guéri ta belle-sœur, ta belle-sœur a été guérie, mais moi aussi je souffre depuis longtemps à la colonne vertébrale. » Elle lui dit « Écoute, elle prend un coton dans ses mains, immédiatement après une petite prière, ce coton s'imbibe d'huile, elle le frotte sur le dos de sa maman, et depuis ce jour, sa maman, qui était toujours courbaturée et ne pouvait vaquer aux besoins domestiques, depuis ce jour, elle n'a absolument plus rien, elle est complètement guérie. »
Mais là, il y a de quoi bouleverser quelqu'un. Là on a une jeune épouse de 6 mois, elle a 18 ans, me dites-vous. Elle prie, comme elle pratique, comme on dit. Tout à coup, elle a de l'huile sur les mains, se demande de quoi il s'agit. Ce phénomène-là s'accompagne déjà de guérison, indiquant quand même qu'on est devant un phénomène à connotation religieuse, en tout cas.
En effet.
Hors de l'ordinaire, en tout cas.
Mais encore incomplet, parce que le 27 novembre, c'est-à-dire 5 jours après le début de ces phénomènes étranges, Myrna était dans sa chambre en train de faire un petit peu le ménage, et puis tout d'un coup, elle regarde 2 icônes qu'elle avait près de son lit, et dont l'une représente, les deux des icônes de la Vierge, dont l'une montée dans un cadre en plastique, imitation ivoire, et que son mari avait rapporté de Bulgarie. En fait, il en avait rapporté 10 à titre de petit souvenir aux membres de la famille. Cette icône, quelle était sa stupéfaction de constater que des gouttelettes d'huile se formaient sur le verre qui protégeait cette reproduction. Elle en fut bouleversée. Elle a, chez son mari, elle lui a dit « Viens voir ce qui se passe ». Son mari, Nicolas, n'en croyait pas ses yeux. Il s'est mis à trembler, a cru défaillir. Il a mis tout de suite un genre de petite assiette en dessous. Cette assiette s'est immédiatement remplie. Il devait plus tard mettre un grand pyrex qui lui aussi s'est rempli. Il ne savait plus quoi faire, ils étaient pétrifiés. Il lui a dit, écoute, ferme la porte, ne permets à personne de rentrer. À l'époque, la situation politique et économique en Syrie, n'est-ce pas, ne permettait pas que l'on ébruite ce genre de choses qui pouvaient peut-être amener à d'autres conséquences. Et puis il est sorti pour aller chercher le reste de la famille. À ce moment, Myrna était seule et tout d'un coup, elle entend une voix qui lui dit « Ma fille Marie ». Myrna, entre parenthèses, on l'appelle Myrna, mais son vrai nom, c'est Marie. Son nom de baptême, c'est Marie. Il dit « Marie, ne crains pas, je suis avec toi. Ouvre les portes et ne prive personne de ma vie, de ma vue. » Quand Nicolas est retourné, Myrna lui a dit ce qu'elle venait d'entendre, etc. Elle lui dit « Tu ne peux pas me dire de fermer les portes parce que j'ai entendu une voix de femme me disant justement d'ouvrir les portes et de ne priver personne de ma vie. » Nicolas devait acquiescer à sa demande et depuis, des dizaines de milliers de personnes ont franchi le seuil de Soufanie.
Mais si je me souviens bien de la lecture des documents que vous avez soumis à mon scepticisme, Nicolas lui-même n'était pas ce qu'on peut appeler facilement un croyant. C'est un chrétien plutôt tiède quand même, comme beaucoup d'hommes de 35 ans ou de 40 ans.
En effet, c'était loin d'être une grenouille de bénitier.
Oui.
Et ceci pour plusieurs raisons. Malheureusement, il me l'a dit à plusieurs reprises aussi, les actes et les dires de certains membres du clergé, de la hiérarchie spécialement, ne l'avaient pas exactement encouragé à persévérer dans cette foi chrétienne. Il faut dire aussi que Nicolas, de par son métier de coiffeur pour dames, et puis ayant voyagé longtemps en Allemagne et en Europe, avait acquis certaines idées ou certaines habitudes qui n'étaient pas toujours très compatibles avec, n'est-ce pas, la foi ambiante. Mm-hmm. Ceci dit, comme vous le dites justement, Nicolas n'était pas ce qu'on pouvait appeler une personne pratiquante, loin de là. Mais ce jour-là, il y a eu un virage de 180 degrés qui s'est opéré et qui, depuis, n'a pas failli une seconde.
Ouais, d'ailleurs, sur les vidéos que vous m'avez fournies, on entend son témoignage quand même, qui est un témoignage de quelqu'un qui est devenu un grand croyant. Mais un croyant hein, qui est quand même, qui n'est pas exalté, qui n'est pas... Moi, j'aime les gens hein, qui sont raisonnables. Je ne veux pas dire raisonnable dans le sens de raisonneur, hein, mais des gens qui essayent de comprendre. Et puis,
en effet, c'est un homme raisonnable, raisonneur et raisonné, je dirais. J'aimerais dire que cette petite icône dont nous parlons, qu'on ne se figure pas que c'est une grande icône ou une grande image, c'est une icône qui a la superficie d'une carte à jouer, par exemple, juste de quelques centimètres carrés. Est mise dans un petit cadre en plastique. Donc, je devrais aussi dire qu'à date, plus de 60 litres d'huile ont exudé de cette petite image.
Il faut dire aussi que les autorités politiques ou les autorités ont dit, bon, enfin, c'est un trucage, ils ont brisé l'icône pour conclure qu'il n'y avait pas de source magique, il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas de charlatanisme. Effectivement, il n'y avait aucune explication à l'exudation d'huile de cette petite icône grande, comme vous dites, comme une carte à jouer.
En effet, c'est ce dimanche 28 novembre, c'est-à-dire le lendemain de la première apparition d'huile sur cette image, que les choses auraient pu se compliquer, en effet, parce que la famille a eu la visite de la sûreté d'Étang. Et il n'y a pas à badiner. Ils ont fait les choses comme il fallait le faire. Ils ont démonté l'image pour s'assurer qu'il n'y aurait pas éventuellement de petites tuyauteries, etc. Et en ce faisant, ils ont malheureusement endommagé le côté du haut, de droite, qui s'est un petit peu déchiré. Mais en enlevant justement l'image, et au moment de l'enlever, l'huile a exudé des mains de l'officier en charge qui s'appelait Akram Aboud lui-même, et qu'il a montré à un médecin qu'ils avaient amené avec eux aussi pour s'assurer de la véracité du phénomène, et le médecin ne pouvait que dire « c'est l'œuvre de Dieu ». Depuis ce jour, non seulement ces gens-là de la sûreté, mais même des membres du gouvernement, des généraux et des personnes très très haut placées dans le gouvernement syrien ont assuré la famille de Soufanié de leur protection la plus respectueuse et la plus continue.
Quand cette semaine de l'unité des chrétiens, de la prière pour l'unité des chrétiens, cette semaine de l'écuménisme, il convenait que nous écoutions ce que la Vierge avait à nous dire. Et pour nous décrire tout ça, nous avons justement un témoin de l'événement, un intime des personnes, donc de Myrna et de Nicolas, et M. Melem Moubarak, qui avoue qu'il était tout aussi sceptique que moi au point de départ. Alors, M. Moubarak, nous nous sommes, avant la pause, nous en étions au fait que l'huile exudait des mains de Myrna lorsqu'elle prie, et l'huile exude aussi d'une petite icône, pas plus grande qu'une carte à jouer, et que jusqu'ici, il y a 60 litres d'huile, et que cette huile a été aussi source de guérison et des milliers de visiteurs qui vont à cette maison et où on refuse tout don en argent. Ça aussi, c'est important. Je pense que ce serait intéressant peut-être que, avant de passer aux apparitions et aux messages, que nous, alors que nous parlons de l'huile, peut-être que vous pourriez nous parler de la signification qu'il faut donner à cette huile, qui ici, dans mon étude du dossier, j'étais vraiment surpris de savoir que cette huile d'olive est d'une qualité telle qu'on ne la trouve pas sur le marché. Il n'y a personne qui peut vendre une huile ou mettre au point ou purifier une huile d'olive de cette nature-là, qu'elle est supérieure à tout ce qu'on peut trouver sur le marché, même parmi les huiles d'olive les plus dispendieuses. Les huiles, donc une huile des plus dispendieuses, faudrait dire. Alors, est-ce que vous pourriez rapidement, parce que le temps va nous manquer, et qu'évidemment, il faut aller à la tribune téléphonique à 15 heures, comme à l'accoutumée, mais toute la signification, le symbolisme de l'huile.
Oui, en effet, on a remarqué qu'à la vue de résultats de ces analyses qui ont eu lieu à propos, tant en Europe qu'en Syrie, qu'on se trouvait en présence d'huile d'olive pure à 100%. Or, l'huile d'olive pure est introuvable naturellement, dans l'état naturel. De plus, même si l'on injectait de l'huile dans le corps humain, il serait impossible que l'on puisse en exuder. Donc, le phénomène est vraiment, surnaturel par définition. L'huile, c'est quoi la signification de l'huile? L'huile a été traditionnellement, n'est-ce pas, rappelons-nous de l'onction de David, c'est l'onction des rois, ça peut être l'onction des malades. C'est un langage chrétien, l'huile, et même biblique. Un langage, je dirais encore, méditerranéen, signe de douceur, de paix, de guérison. Rappelons-nous de l'olivier, de la branche d'olivier, qui est symbole de paix. Donc l'huile a toute une symbolique, et ce qui explique naturellement ce phénomène à Soufanié.
Il y a aussi, évidemment, n'est-ce pas, M. Melem Moubarak, il y a toute l'utilisation de l'huile dans les liturgies sacramentelles. Il y a l'onction de l'huile au baptême, il y a l'onction de la confirmation, il y a l'onction d'huile de l'ordination sacerdotale, et de l'ordination épiscopale aussi. Il y a l'onction d'huile pour le sacre des rois. Alors, il y a toute cette notion de la... Hein, et il y a toute la question de l'huile pour la mise en ordre de la musculature des athlètes. Alors, il y a tout ça. Alors, l'huile a une symbolique d'une richesse extraordinaire et une cohérence avec la Bible.
Absolument. En effet, nous voyons que l'huile a une signification humaine et spirituelle en même temps. Ceci dit, jusqu'à présent, nous avons étudié, n'est-ce pas, nous avons passé en revue, n'est-ce pas, les débuts du phénomène jusqu'au 15 décembre où...
Toujours en 1982.
Toujours en 1982, où au 15 décembre a eu lieu la première apparition à 11h37 exactement du soir. J'aimerais dire à ce propos que c'était l'heure exacte à laquelle l'ange a entraîné Catherine Labouré à voir l'ange. Et ce phénomène, d'ailleurs, on célèbre la date anniversaire de la médaille miraculeuse de la rue du Bac. C'est le 27 novembre qui est le jour où l'huile a exudé de l'icône miraculeuse pour la première fois. Donc, il y a des analogies assez frappantes avec la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Donc, la première fois, Myrna était en train de prier quand une main, comme elle l'a décrit elle-même, l'a poussée inconsciemment vers la terrasse de sa maison. Et là, Elle était en prière pendant 10-15 minutes ce 15 décembre 82. Et lorsqu'elle a relevé la tête, elle a vu en face d'elle une très belle dame. Mais elle en a eu tellement peur qu'elle a détalé comme un lapin. Et puis qu'elle est allée réveiller même sa belle-sœur à l'époque, etc. Et le père Zahlaoui, qui par la suite a été naturellement un de ses pères spirituels, lui a dit, écoute, une maman ne fait jamais peur. Confie-toi à elle, aie confiance, et tu peux être sûr que la prochaine fois qu'elle apparaîtra, tu peux être sûr que tu n'auras rien à craindre d'elle. Et en effet, quelques jours plus tard, en fait, le 18 décembre, c'est-à-dire 3 jours plus tard, la Vierge lui apparaissait pour la deuxième fois techniquement, mais elle lui délivrait son premier message. Et ça a été le premier d'une trentaine de messages, d'une très haute portée théologique et en même temps d'une simplicité merveilleuse qui fait que beaucoup de gens ont été complètement transformés par le phénomène de Soufanié.
Si vous permettez, je vais lire le message de la deuxième apparition, de celle dont vous parlez, du 18 décembre 1982. La première apparition, la note ici, c'est vu l'état de frayeur de Myrna parce qu'elle est allée chez sa belle-sœur. Le premier message a été donné lors de la deuxième apparition, après que son directeur spirituel ou son accompagnateur spirituel lui a dit, « Mais enfin, il ne faut pas avoir peur de ta maman. » Alors voilà, lisons ce texte quand même pour en avoir, jusqu'à voir jusqu'à quel point il y a de la cohésion théologique, que c'est conforme à la tradition et à la foi de tous les temps. Mes enfants, souvenez-vous de Dieu. Dieu est avec nous. Vous connaissez toutes choses et vous ne connaissez rien. Votre connaissance est une connaissance incomplète. Mais viendra le jour où vous connaîtrez tout, comme Dieu me connaît. Faites le bien à ceux qui font le mal et ne faites de tort à personne. Je vous ai donné de l'huile, mais je vous donnerai quelque chose de bien plus fort que l'huile. Repentez-vous et croyez. Et il y a cette phrase-là qui me bouleverse personnellement, en tout cas. Et souvenez-vous de moi dans votre joie. Annoncez mon fils, l'Emmanuel. Qui l'annonce est sauvé. Qui ne l'annonce pas, sa foi est vaine. Aimez-vous les uns les autres. Je ne demande pas de l'argent à donner aux églises, ni de l'argent à distribuer aux pauvres. Je demande l'amour. Ceux qui distribuent leur argent aux pauvres et aux églises sans avoir l'amour, ceux-là ne sont rien. Je visiterai les foyers davantage, car ceux qui vont à l'église quelquefois, ils n'y vont pas pour prier. Je ne demande pas que vous me construisiez une église, mais un lieu de prière. Donnez. Ne privez personne de ceux qui vous demandent secours. Fin du message de la deuxième apparition. C'est un langage qui a... C'est céleste, je veux dire. Il n'y a pas beaucoup... En tout cas, moi, je ne pourrais pas écrire ça, parce que je ne connais pas grand monde qui pourrait l'écrire ou le dire comme ça. Hein? Et souvenez-vous de moi dans votre joie. Peut-être pour laisser entrer ça, nous pourrions, M. Nicolai, chanter ou écouter chanter les cantiques à la Vierge. Ici, c'est bon de savoir que ce sont des enregistrements de groupe à Soufanié devant l'icône qui chante les louanges de la Vierge.
لما بيفتح دول العالم
Je ne comprends pas les mots de ce chant, mais je peux dire que le rythme est tel que je pense que les gens ont compris « Souvenez-vous de moi dans votre joie », parce que la cantique est vraiment chantée de façon joyeuse. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes à Oui, la joie, ça s'apprend. Aujourd'hui, nous avons la joie de découvrir Notre-Dame de Stéphanier. C'est une apparition, c'est une révélation privée qui n'engage pas l'Église, qui n'engage pas la foi de qui que ce soit. C'est moi, ce dont je vous parle, c'est une opinion personnelle. Après l'étude sérieuse du dossier et après avoir exercé ce que je crois être la plus élémentaire la prudence chrétienne. Alors voilà, nous en sommes, n'est-ce pas, M. Moubarak, à parler des messages. Nous n'avons pas le temps de tous les lire, mais vous pourriez nous donner les grandes lignes ou la teneur de ce que Marie dit à Myrna, hein, pour que Myrna, bien sûr, nous le transmette.
Oui, vous parliez de joie tantôt, et en effet, la Vierge demande à Myrna de se souvenir d'elle et que nous nous souvenions d'elle quand nous sommes heureux. Elle enseigne une petite anecdote que quand Myrna est avec des convives ou avec des orangs, ils sont là autour d'une table. Myrna, la première chose qu'elle fait, elle lève son verre à la Vierge en disant en arabe « Kess al-Adra », ce qui veut dire « Je porte un toast à la Vierge Marie ». C'est touchant de simplicité, de naïveté, mais en même temps de candeur évangélique. Pour revenir à la teneur des messages, je dirais qu'il y a trois composantes de Stéphanier. C'est la prière, les manifestations surnaturelles et la présence invisible du Christ. Les manifestations surnaturelles se traduisent par l'huile, par les apparitions, les stigmates, les miracles qui ont accompagné très souvent ces phénomènes et les messages eux-mêmes.
Monsieur Moubarak, avant que vous passiez au message, là, pour en faire une synthèse autant que possible, là, parce que le temps nous presse, mais les stigmates arrivent quand même à une date très précise, lorsque le jour de Pâques est le même pour les deux églises orientales, à savoir la catholique orientale et l'orthodoxe. Hein, lorsque le jour de Pâques arrive ensemble, Myrna a le phénomène des stigmates. Est-ce que j'ai bien compris?
En effet, c'est tout à fait ça, et c'est peut-être symbolique
de la nécessité de l'œcuménisme.
De la nécessité de l'œcuménisme et de l'unité de l'Église le plus tôt possible. Mais dans tout ça, naturellement, quand les caprices du calendrier veulent que l'Église orthodoxe et l'Église catholique célèbrent Pâques le même jour, durant la Semaine Sainte, Myrna reçoit les stigmates du Christ, tombe en extase, et lorsqu'elle voit le Christ, l'huile exude non seulement de ses mains, comme c'est l'habitude, mais de son visage et même de ses yeux, lui brûlant les yeux.
Et c'est très douloureux.
Et c'est très douloureux, mais c'est sa façon de porter et de participer à la passion du Christ. Pour me résumer, je dirais qu'il y a eu 5 apparitions de la Vierge Marie en 82 et 83. Il y a eu 31 extases, dont 19 visions du Christ et 12 de la Vierge, et en tout une trentaine de messages. Maintenant, Stéphanier n'est pas une scène de théâtre où l'on fait des exhibitions pour le plaisir des spectateurs. Ces manifestations surnaturelles sont un appel à entendre et à changer sa vie passée pour la renaître à Jésus. C'est le coup de pouce nécessaire. Et c'est là où nous voyons que, en fait, c'est un genre de pédagogie où l'on explique, c'est une pédagogie divine, où on explique à Myrna l'Évangile sous une nouvelle couverture, mais tout à fait dans la même veine que l'Évangile traditionnel, mais présenté peut-être d'une manière un peu plus moderne et différente. J'aimerais aussi, avant de répondre à une autre question éventuelle, de dire que dans ces messages, parmi les plus beaux que j'ai trouvés, c'est la place qui est accordée à Marie de la part du Christ, qui vraiment met les points sur les i, et que où vraiment on sent qu'il tient absolument à ce qu'elle soit une coparticipante du salut. J'aimerais vous en donner un ou deux exemples. Quand le 7 septembre 85, il dit en substance, « Je suis le Créateur. Je l'ai créé pour qu'elle me crée. Réjouissez-vous de la joie du ciel, parce que la fille du Père, la Mère de Dieu et l'épouse de l'Esprit est née. Exultez de l'exultation de la terre, car votre salut est réalisé. » Et un peu plus loin, le 15 août 87, il dit à Myrna aussi, « Ma fille, c'est elle ma mère dont je suis née. Qui l'honore, m'honore. Qui la renie, me renie. Et qui lui fait une demande, obtient, parce qu'elle est ma mère.
» Ces messages qui sont transmis à Myrna, c'est important de savoir que malgré que c'est une femme intelligente, équilibrée, pragmatique, elle n'a tout de même pas la formation pour transmettre des messages à haute teneur théologique comme ceux qui sont transmis.
Vous avez tout à fait raison. Loin d'être une personne de haute intelligence, comme vous dites, une dame extrêmement normale qui a eu un niveau d'éducation plus qu'élémentaire, qui ne savait en guise de prière que le « Je vous salue » et le « Notre Père », qui ne savait même pas que le chapelet existait et qui ne savait même pas que Notre-Dame de Lourdes avait eu lieu ou qu'il y avait un endroit qui s'appelait Lourdes. C'est vous dire vraiment les connaissances élémentaires religieuses de cette femme, de cette jeune femme.
Il y a, j'ai remarqué aussi dans l'étude du dossier que vous m'avez fourni, qu'à un moment donné, il avait été question qu'elle quitte sa famille et qu'elle entre au couvent pour devenir contemplative ou quelque chose du genre. Et à ce sujet, elle a consulté Marie. Et Marie lui a dit, mais non, pas question. Est-ce que vous pourriez nous rappeler tout ça?
En effet, quand on a vu tous ces phénomènes, surtout quand on pense que c'est en Orient, on ne pouvait pas traditionnellement penser que la Vierge puisse apparaître à quelqu'un de marié. Il fallait en principe qu'on apparaisse à une jeune femme ou à une sœur ou à une personne encore vierge. Mais cependant, Myrna pensait peut-être aller se cloîtrer ou aller terminer ses jours dans un couvent. Quand le 7 septembre 1984, la Vierge lui dit « Vis ta vie ». Ce ne vient pas ici pour t'empêcher de vivre ta vie, mais que la vie ne t'empêche pas de continuer à prier. Ceci dit, c'est pour vous dire que la Vierge ne voulait absolument pas que Myrna puisse aller au couvent. Au contraire, le message de Soufanié, c'est un message qui est principalement pour la famille et pour la vie de famille. Elle lui avait même dit qu'elle pouvait continuer à vivre sa vie de mère et de fille et d'épouse, donc de mener une vie familiale tout à fait normale qui ne l'empêche cependant pas de prier.
Et le fait est que depuis 1982, elle a eu des enfants et que la vie familiale continue.
Exactement, et même le premier enfant a été un cadeau de la Vierge. Le 1er mai 85, elle lui a dit même, « Ma fille, je te donnerai un cadeau pour tes fatigues. » 6 mois plus tard, elle devait donner le jour à Myriam, qui est son premier enfant. Elle a eu par la suite un garçon qu'elle a appelé Jean-Emmanuel.
Nous ensemble, nous approchons, il nous reste à peine 8 ou 10 minutes là. Nous approchons de la fin de l'interview. Évidemment, nous pourrons ajouter des choses en réponse aux questions de ceux et celles qui nous appelleront pendant la tribune téléphonique. Mais il me semble que vous vouliez partager avec nous une prière que le Christ a transmise à Myrna et qui est la prière. En attendant que vous la trouviez, moi, j'aimerais, dans cette semaine de l'unité, j'aimerais ce message extrêmement bref de la part du Christ à Myrna, le 7 septembre 1988. Et le texte est celui-ci. « Ma fille, en vérité, je t'ai dit de surmonter toutes les difficultés et sache que tu n'en as éprouvé que peu. » Et ceci est important. « Dis à mes enfants que c'est d'eux que je demande l'unité. » Et je ne la veux pas de ceux qui leur jouent la comédie en simulant de travailler pour l'unité. Va et porte l'annonce, et partout où tu seras, je serai avec toi. Hein? Je sais d'eux que je demande l'unité, et je ne la veux pas de ceux qui leur jouent la comédie en simulant de travailler pour l'unité. Donc, les chrétiens, nous avons à prier pour l'unité, nous avons à collaborer et à être en dialogue avec nos frères chrétiens de toute confession qui sont autour de la table de l'écuménisme et qui souffrent tous, que nous devons tous souffrir de nos divisions. Vous aviez cette prière, M. Moubarak.
En effet, j'aimerais la réciter en guise de conclusion. C'est une prière que le Christ lui a demandé de réciter, et ça, il l'a fait en date du 31 mai 84, quand il lui a dit « Bien-aimé Jésus, accorde-moi de me reposer en toi par-dessus toute chose, par-dessus toute créature, par-dessus tous tes anges, par-dessus tout éloge, par-dessus toute joie et exultation, par-dessus toute gloire et dignité, par-dessus toute l'armée céleste, car toi seul es le Très-Haut, toi seul es puissant et bon par-dessus tout. Viens à moi et console-moi et délie mes chaînes et accorde-moi la liberté. Car sans toi, ma joie est incomplète. Sans toi, ma table est vide. »
Ceux et celles qui veulent que nous leur remettions cette prière, nous en ferons copie. Et vous pouvez nous écrire ici à Radio Ville-Marie. Et nous vous l'enverrons. Il s'agit tout simplement de nous envoyer une enveloppe avec votre nom. Ou si vous préférez, vous avez une adresse où vous aimeriez, en tout cas, on donnera les deux. Alors, vous envoyez une enveloppe avec préadressée, comme on dit, affranchie. Adressée à votre nom et affranchie. Vous nous envoyez ça, une enveloppe assez grande. Et vous envoyez ça à Radio Ville-Marie, 505 Avenue du Mont-Cassin. M-O-N-T, Très Union, C-A-S-S-I-N, Montréal, bien sûr, H-3-L-1-W-7, 1-W-7. Bon, nous apprécions que vous nous envoyez quelques sous là, pour défrayer la manutention, mais c'est désirable, mais pas nécessaire. Alors, nous vous ferons parvenir cette prière qui est révélé à Myrna par le Christ lui-même. Je tiens à souligner qu'il s'agit d'une révélation privée qui n'engage pas la foi. Personne n'est obligé de croire ça. Et que lorsque je dis que personnellement j'y crois, c'est une opinion personnelle. Je ne l'impose à personne. Mais il me semble que les raisons de croire sont suffisantes, en tout cas, pour que je puisse continuer à me croire un croyant intelligent et modéré. Les phénomènes dont on parle s'étalent jusqu'en 1990, n'est-ce pas?
Oui, en effet.
Qu'est-ce qui se passe depuis ce temps-là, 90 à 96, là, si je comprends bien? Il n'y a plus stigmates, il n'y a plus d'apparitions, il n'y a plus de messages.
Alors, la dernière fois, c'était justement qu'il y a eu un message, c'était le 26 novembre 90, et la Vierge l'a bien dit à Myrna. Elle lui dit, « Ne crains pas, ma fille, si je te dis que tu me vois pour la dernière fois, jusqu'à ce que la fête de Pâques soit unifiée. » Et le Christ l'avait dit un peu plus tôt, durant l'année, quand il a dit aussi, « Mais toi, ma fille, tu n'entendras ma voix qu'une fois la fête de Pâques unifiée. » Donc, depuis ce jour-là, nous devons dire que si les phénomènes d'extase et de stigmate ont cessé, les phénomènes d'exudation d'huile continuent et continuent de plus belle. Myrna continue toujours à avoir de l'huile qui exude de ses mains et parfois de son visage, soit au cours de rencontres privées, soit au moment de la communion lorsqu'elle assiste à la messe, soit parfois quand elle est chez des gens, pour une raison ou une autre, quand ils sont en train de prier ou même de converser. Si la Vierge est contente de ce qui est en train de se dire, tout d'un coup, les mains de Myrna exudent de l'huile. Donc, le phénomène d'exudation continue, le phénomène d'évangélisation continue, et c'est ça le plus important, va et annonce dans le monde entier, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle. Et c'est ce que fait Myrna. Elle est déjà allée plusieurs fois aux États-Unis, en Australie. Elle est allée plusieurs fois en Europe. Dans un mois, elle va être invitée en Corse par les frères Jacquard. Et cet été, nous espérons la recevoir de nouveau au Canada, parce qu'elle y était déjà venue en 93. et elle ira aussi au New Jersey, en Californie. Donc, l'émission évangélique et apostolique continue de plus belle, et c'est ça, je crois, le point le plus important du phénomène de Soufanié. Allez et prêchez la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle de la nécessité de s'unir, la bonne nouvelle de la beauté, de la grandeur du mariage et de la famille, hein? Et la bonne nouvelle, bien sûr, du pardon. Et aussi la bonne nouvelle de « Souvenez-vous de moi dans votre joie », qui est une spiritualité à laquelle on n'est pas habitué. On se souvient de Dieu dans sa souffrance, dans nos échecs, lorsqu'on ne sait plus à qui se vouer, à un moment donné, on crie. Hein? Mais souvenez-vous de moi dans votre joie. En tout cas, moi, c'est une...
En effet.
Cette émission s'appelle « Oui, la joie, ça s'apprend quand même ». Alors, souvenez-vous de moi dans votre joie et souvenez-vous de moi. On va essayer de se souvenir aussi de lui. Et voilà, ça continue. Et le message est un message d'écuménisme, donc soyez unis. Le message aussi est un message de bonification ou de reconnaissance de la sainteté, de la grandeur de la vie de mariage et de la vie familiale. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans la théologie de la spiritualité, de même la plus récente de l'Église, avoir une vocation, c'était une vocation religieuse. Si on n'avait pas de vocation, on se mariait. Je pense que le message de Soufanié souligne tout ça. Et bien sûr, souvenez-vous de moi dans votre joie, c'est-à-dire que le Seigneur est là, vivant au sein de nous, ou à l'intérieur de nous-mêmes. Et il aimerait beaucoup que nous partagions nos joies avec lui, autant que nous crions dans le désert de notre souffrance, lorsque nous sommes devant un échec. Alors voilà, la tribune est ouverte à 382-5913 et M. Melem Moubarak est là pour dialoguer avec vous et vous parler de ce que lui-même a vu et entendu. Voilà, on vous écoute. Bonjour.
Bonjour, M. Charon.
Bonjour.
Bonjour, M. Moubarak.
Bonjour.
Mon nom est Fernand. J'ai entendu parler pour la première fois de Notre-Dame de Soufanié l'an passé quand, à la cathédrale Marie-Reine du Monde, j'ai trouvé une prière avec une photo là, de l'icône d'un côté. Et c'est justement le texte que vous avez lu tout à l'heure, là. Bien-aimé Jésus, c'est ça qui est la prière, qui est une prière magnifique. Je l'ai tellement aimé que je l'ai placé dans mon prion en église pour l'avoir le plus souvent possible en accès.
Je suis très heureux de vous l'entendre dire. Est-ce qu'il y aurait quelque chose... d'additionnel ou de renseignements complémentaires où je pourrais vous aider, peut-être, M. Fernand?
La prière est magnifique. Il est question, justement, de joie. Là. Il y en a question deux fois là-dedans. Et justement, quand vous avez dit tout à l'heure que l'icône avait été déchirée par des policiers, je crois.
Par inadvertance, je devrais le dire, oui. Ouais.
J'avais pas porté attention, mais on voit sur la photo qu'il manque un petit bout.
En effet. Mm-hmm.
C'est à droite, hein?
En effet, oui.
Mm-hmm. Et ce qui est bien, c'est que c'est écrit en bas, Notre-Dame de Soufanié, source de l'huile sainte, mais c'est écrit en plusieurs langues, dont la langue arabe, je pense que c'est écrit en allemand, en anglais, je crois aussi en italien, en français, évidemment. Fait que si ça peut nous amener vers plus de tolérance, d'humanisme et d'écuménisme.
Le message de l'unité chrétienne, jusqu'à quel point est-ce que ça vous touche? Et est-ce que ça a changé votre perception de nos frères chrétiens d'autres confessions? Est-ce que ça a amené chez vous une prière plus constante pour l'unité des chrétiens?
Alors, moi, je dirais pour l'unité de tous les humains, peu importe la...
Oui, mais l'écuménisme porte là-dessus quand même. L'écuménisme, c'est la recherche de l'unité entre chrétiens afin que le monde croit.
Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je sais que souvent, dans des discussions, je frappe un peu comme on appelle un mur, là. Il y a beaucoup peut-être d'ignorance. On a peur de ce qui est autre.
Oui.
Puis ça me dévoile toujours un peu.
Et on pense qu'on dialogue lorsqu'on essaye de convaincre l'autre de son erreur.
Je me demande...
Parce que tous ceux qui pensent pas comme nous sont généralement en erreur dans notre point de vue.
Ben justement, j'aimerais dire là, Monsieur Fernand,
Là, nous devons toujours nous référer à Jean 17, verset 21, quand il dit que, n'est-ce pas, que le monde soit un, comme lui-même et le Père sont un, n'est-ce pas? C'était la dernière prière de Jésus. Maintenant, l'Orient, n'oublions pas, l'Église d'Orient, tant catholique qu'orthodoxe, même le pape dernièrement, dans sa dernière encyclique, devait dire que l'Église, n'est-ce pas, a deux poumons, l'Église orientale et l'Église d'Occident, voulant dire par là que finalement nous faisons tous partie du même corps qui est celui de l'Église et celui du Christ en général. Et donc l'Orient apporte à l'Église une certaine richesse, une tradition, en ce qui concerne la Vierge, je dirais une mariologie certaine plutôt qu'une mariolatrie, c'est-à-dire nous devons éviter les débordements envers la Vierge. La Vierge est la première à le dire. Son fiat était empreint d'humilité, n'est-ce pas? Elle est loin de se croire supérieure ou égale, naturellement, au Christ. Ce serait une aberration. Donc, nous devons penser à elle comme étant la mère de Dieu, il est vrai. Mais finalement, c'est notre intercédente, c'est notre avocate. Donc, d'où le culte de la vénération de la Vierge, mais non pas une idolâtrie ou une mariolâtrie ou une préséance de la Vierge. De plus, l'Église d'Orient apporte toujours la tradition du culte au Saint-Esprit, à la Sainte Trinité. Donc tout cela, c'est un apport de richesse que l'Église d'Orient pourrait, que l'Église d'Occident pourrait facilement entériner comme sienne également. Et avec la fusion des deux, nous ne pourrons aller naturellement que vers une plus grande gloire de Dieu.
Elle est inspirante, je trouve, l'Église d'Orient. Elle est plus, moi je pense à cette prière-là, au texte qui a été lu, là. Mm-hmm. C'est, je trouve ça plus, sur des choses, je trouve ça plus inspirant. Ça rejoint peut-être un peu les mystiques.
Oui, elle est plus, l'Église d'Orient est plus mystique, elle est plus spirituelle, sa liturgie est plus riche aussi, à mon avis en tout cas. Elle a une dévotion à Marie, mais une dévotion probablement mieux équilibrée que beaucoup de dévotions dans l'Église latine. Même si dans l'Église latine, les formes de dévotion à Marie sont très peu nombreuses. Hein. Je pense qu'un théologien que j'aime beaucoup, le père Édouard Hamel, avec lequel on a fait ici une série « Son nom est Marie », cette expression assez lapidaire, mais assez dure aussi, disant que dans l'Église d'Occident, lorsqu'on a quitté le chapelet, on a quitté Marie. Tandis que chez nos frères orientaux, fussent-ils uniates ou orthodoxes, il y a une panoplie de façons de vénérer Marie, notamment dans les icônes, des chants, etc. Alors, je pense que lorsqu'on prie pour l'unité, là, ce n'est pas tout simplement qu'eux quittent ce qu'ils sont pour devenir comme nous, c'est l'unité dans la diversité. Et que nous puissions nous enrichir mutuellement de traditions, oui, de traditions théologiques et spirituelles.
Très beau ce que vous dites.
Oui.
Avant de finir, M. Fernand, oui, j'aimerais juste dire un petit mot. Nous, notre façon de croire et de voir, c'est toujours vers Jésus par Marie, n'est-ce pas? C'est vers Jésus par Marie. Là, je vous dirai une petite anecdote personnelle. Il y a 13-14 ans, j'ai eu le plaisir et le privilège de rencontrer André Frossard, celui qui avait écrit « Dieu existe, je l'ai rencontré ».
Oui.
Et puis, en lui parlant un petit peu de choses et d'autres, je lui ai demandé pourquoi, certaines dénominations chrétiennes n'avaient pas la même vénération ou dévotion pour la Vierge Marie. Il m'a dit cela s'expliquait par certaines raisons socioculturelles, etc. Et entre autres, il me dit, s'il est vrai qu'on peut aller au Christ directement, et s'il est vrai que le Christ est finalement le pain de vie, donc la biscotte, si le Christ c'est la biscotte, la Vierge Marie, c'est la confiture sur cette biscotte. Et une biscotte à la confiture, ça a tellement plus de goût qu'une biscotte toute sèche. Bon, naturellement, c'était peut-être une boutade, mais qui explique très bien le rôle, finalement, de la Vierge Marie. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Fernand.
J'aimerais vous demander, en terminant, où est-ce que je pourrais me procurer d'autres images comme celle-là, parce que là, je l'ai trouvée par hasard.
Alors, pour ce document et d'autres documents, les messages de Souphanillé, si vous voulez tous bien écrire l'adresse suivante, adressée à Gabriel Berberian, 955 40e Avenue, 955 40e Avenue, La Chine, H8T 2G7, La Chine, H8T 2G7. Et ceux qui aimeraient lui téléphoner éventuellement au 634 634-0371. Je répète, 634-0371. Merci.
Merci, M. Moubarak. Merci, M. Charon.
Merci.
Au revoir.
Cette adresse et ce numéro sont disponibles au service téléphonique de Radio Ville-Marie à 382-3913. Alors, ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre des notes, ils pourront demander, comme ils peuvent demander aussi pour la prière. Je pense que M. Berberian aussi pourra faire parvenir la prière à la même adresse, la prière dont on parlait tantôt. Alors, on répétera aussi au cours de l'heure l'adresse que vous venez de donner. Alors voilà, vous êtes en onde à 382-5913. 382-5913, oui, la joie, ça s'apprend. Voilà, on vous écoute. Bonjour. Allô?
Oui.
Bonjour.
Oui, allô?
Parlez plus fort, s'il vous plaît.
Oui. Est-ce que je suis en onde?
Oui, vous êtes en onde et on vous entend bien. Ça va bien.
Merci. C'est un témoignage que j'aimerais rendre. Je suis très, très émue en ce moment, d'une part, d'entendre sur les ondes des messages de la Vierge à Soufanie. J'ai eu une expérience personnelle, moi, lorsque mon frère, en 93, était mourant. Et déjà, je connaissais le phénomène. J'avais beaucoup de documentation sur ça et sur d'autres phénomènes qui se produisent à travers le monde entier, sur les apparitions de Marie, les messages qui se ressemblent, finalement. Mais comme je partais le lendemain matin pour aller visiter mon frère en Ontario, qui était mourant, providentiellement, j'ai pu être mise au courant que Myrna était à Montréal. Et j'ai pas pu me rendre à l'oratoire, mais on m'a dit que le lendemain matin, le dimanche, elle était à l'église, je me souviens pas du nom, sur Saint-Denis, près de boulevard René-Lévesque. Donc, je me suis rendue et providentiellement, j'ai une dame avec qui j'avais fait un voyage à Medjugorje qui était présente, elle est venue s'asseoir à côté de moi et elle était allée à l'oratoire et elle m'a dit, puisque tu vas voir ton frère, tu devrais apporter de l'huile, mais j'avais pas de ouate. Alors, elle en avait, elle me l'a partagée. Et j'ai une autre amie qui avait un petit pot à la toute fin qui dans lequel j'ai pu déposer ma petite ouate. Je vous dis, c'était vraiment providentiel. Et je donnerai pas les détails comment ça s'est produit. Je croyais que Myrna était partie, mais elle était au sous-sol. Et son directeur spirituel qui était là m'a dit que je pouvais me rendre pour aller avoir de l'huile et j'ai vu de mes yeux l'huile qui se mettait sur ses mains. Enfin, vous avez un autre mot là, que moi, je me souviens pas. Là.
Exudé,
bon. Et en tout cas, moi, pour moi, c'était vraiment des grâces extraordinaires que je recevais pour aller visiter mon frère. Maintenant, il y avait le problème, comment lui présenter ça? Parce qu'il était très sceptique avec mes affaires de mari puis les apparitions. Et ma mère, qui était âgé de 99 ans à ce moment-là, ou 100 ans, bon, de toute manière, il s'en occupait beaucoup, mon frère, et maman disait son chapelet de la miséricorde continuellement la journée longue, et elle disait Jésus miséricorde. C'était pas plus compliqué. Mon frère était très sceptique face à tout ça, puis même aux prières que maman faisait. Il était pratiquant, mais pas plus. Et j'ai apporté avec moi la vidéo de Notre-Dame de Soufanie. Et j'ai prié et son cœur s'est ouvert. Il a tellement bien reçu tout ça, c'était au-delà de mes espérances. Alors j'ai pu le bénir avec cette huile et il a fait une mort extraordinaire. Et il y a une conversion du côté de ma belle-sœur. Elle en a pris soin jusqu'à la toute fin. Il est décédé à la maison. Il était comme un petit enfant quand je l'ai approché avec ça. Et par la suite, il avait la communion à tous les semaines. Il était complètement comme un petit enfant, tout abandonné. Et ma belle-sœur, qui était révoltée face à la mort, face à la maladie, elle a eu la grâce de tout accueillir ça et de l'accompagner jusqu'à la toute fin. Alors, tout ça pour vous dire, oui, c'est des grâces extraordinaires et je rends grâce au Seigneur pour ce qui se passe ici en ce moment à Radio Ville-Marie, que ces choses-là soient révélées, soient communiquées. Alors, je suis tout à fait heureuse, très émue aussi, là, comme vous pouvez vous en rendre compte. Alors, je remercie le Seigneur qui permet toutes ces choses. Et je vous remercie d'accepter de transmettre ces messages et je vous félicite pour vos émissions. Ça fait un bien énorme à beaucoup de gens.
Bien, comme vous voyez, madame, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est dans la plus grande prudence que c'est fait. avec les limites, bien sûr, que c'est une opinion personnelle, c'est quelque chose de privé.
Oui.
Et en tout cela, évidemment, l'idéal, c'est d'attendre l'approbation officielle de l'Église.
Oui, je suis bien
d'accord. Mais je pense que lorsque on a pris les moyens prudentiels, lorsqu'on est prudent, on peut engager sa conscience et sa foi.
Oui.
En se rendant compte, évidemment, que ça ne remplace tout de même pas le credo, puis le symbole des apôtres,
non.
les sacrements et les commandements.
Je suis bien d'accord
avec la grande
vous.
Tradition est là. Mais il n'en demeure pas moins que
si
le miracle n'arrive pas à tous les coins de rue,
oui.
si le miracle n'arrive pas à tous les coins de rue, ce n'est pas une raison de nier quand même des choses qui sont mises sur notre chemin et qui nous permettent de mieux saisir l'importance que Dieu attache à ce que nous sommes puis à ce qu'il voudrait que nous fassions pour notre plus grand bonheur et que nous nous souvenions, hein, que
j'ai
nous puissions
aimé...
nous souvenir de lui même dans notre joie.
Oui, j'ai bien aimé l'anecdote de tout à l'heure sur... les confitures sur Marie, là, ça, j'ai beaucoup aimé.
Monsieur Moubarak aurait un dernier mot à vous dire avant que nous passions
oui.
un autre appel.
Merci, chère madame. Je suis très touché que vous ayez aimé l'anecdote sur la confiture.
Oui.
Je voulais simplement vous demander, c'est quoi votre nom, madame?
Moi, c'est Raymond.
Chère madame, je veux respecter votre anonymat à la radio, mais je vous demanderai si c'était possible de nous envoyer votre témoignage écrit pour que nous puissions l'envoyer au père Zahlaoui, à Damas même, par celui qui compile toutes les archives de Soufanié. Et votre témoignage est assez éloquent et je suis sûr qu'il servira naturellement à étoffer le dossier pour la plus grande gloire de Dieu.
Merci.
Je
oui,
compte
sûrement,
sur vous.
Oui,
vous pouvez l'envoyer à l'adresse que je vous ai donnée de M. Berberian à la Chine.
Je ne l'ai pas noté, l'adresse. Mais je vais appeler Radio Ville-Marie pour l'avoir.
Oui, vous pouvez rappeler Radio Ville-Marie. On le donnera d'ici la fin de l'émission, au moins une fois ou deux.
C'est bien. Je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Au revoir.
Et voilà, 382-5913, 382-5913. Vous êtes à l'émission Oui, la joie. Ça s'apprend aujourd'hui. Nous avons la joie, en toute prudence, mais en toute sincérité aussi, de découvrir Notre-Dame de Soufanié. Soufanié, il faut dire. Il y a un R, c'est un H, mais en tout cas. Allons, on n'est pas pour faire de la sémantique. Et voilà, vous êtes en onde. Bonjour.
Oui, allô?
Bonjour, madame.
Oui, bonjour. Moi, j'appelle parce
Est-ce qu'on peut avoir votre prénom?
Oui, c'est Barbara.
Barbara.
OK. Moi, j'appelle parce que je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez parlé. Il s'est produit un miracle chez nous en 93 quand Myrna est venue à Montréal, au Canada. J'ai une de mes sœurs qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça faisait 11 ans qu'elle essayait de tomber enceinte. Alors, moi et ma famille, on a été à l'église et quand l'huile a commencé de descendre de ses mains, j'ai enlevé la camisole de mon fils et j'ai frotté les doigts de Myrna. Et après la messe, je me suis rendue chez ma sœur, je lui ai frotté le ventre avec la camisole et un mois après, ma sœur, elle est tombée enceinte.
Et voilà.
J'y crois et c'est vrai parce que ma sœur, elle s'est faite soigner par plusieurs médecins et ils lui donnaient aucun espoir de tomber enceinte.
Mm-hmm. Et voilà.
Il faut remercier la Vierge Marie et le Christ, naturellement. Myrna, naturellement, n'est que la simple messagère. Ce n'est pas elle qui accomplit tous ces miracles. Elle
non.
n'est que le simple trait d'union entre le divin et nous. Et gloire soit rendue à Dieu.
Et je me dis que si tout le monde priait et demandait, je suis sûre que le Seigneur est avec nous et proche de nous.
Bon, il est le Dieu de la vie, hein? C'est le Dieu de la joie, c'est le Dieu de la compassion, c'est le Dieu qui nous donne signification à notre existence.
Mm-hmm.
C'est le Dieu de la paix aussi.
Exact.
Alors, voilà. Et la plus grande gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, je pense, disait saint Irénée. Être vivant, c'est être autonome, c'est grandir, c'est être en épanouissement. Alors, tout ça, tout ça entoure justement ce phénomène de Soufanié, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, je dis que celui-là, je l'ai étudié, et que celui-là, pour des raisons que j'ai données en début d'émission, au cours d'émission, appelle mon adhésion, si l'on veut.
Et on veut remercier beaucoup, parce que je suis sûre que ça va aider beaucoup, beaucoup de monde.
Merci.
Ce qui est important, c'est qu'on découvre le Christ, hein?
Exact.
Alors, je pense que Soufanié et tout le reste, moi, une phrase de Marie me reste toujours dans l'esprit. Lorsque, pour ne pas tomber justement dans ce dont parlait M. Moubarak tantôt, la marilâtrie et l'idolâtrie mariale, moi, j'aime beaucoup cette parole à la noce aux noces de Cana, hein?
Exact.
Faites tout ce qu'il vous dira. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde la Vierge dans les évangiles, elle est d'une discrétion extraordinaire. Elle ne parle pas beaucoup, hein? Mm-hmm. Elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Alors, je pense que lorsqu'on la fait parler, il faut se rendre compte quand même qu'elle parle toujours avec cette prudence et cette discrétion maternelle que nous révèle l'Évangile.
Je trouve ça dommage aussi qu'on pense à Jésus ou à Marie seulement quand on a de la peine, quand on a besoin d'aide. On ne pense jamais à lui quand on est dans nos joies, dans nos...
Ben oui, mais il nous dit, hein?
Exact.
Elle nous dit, c'est-à-dire, souvenez-vous de moi dans votre joie. Alors, salut!
Je vous remercie beaucoup.
Barbara!
Oui.
Merci, Madame Barbara.
Avant de terminer, j'aimerais simplement vous dire, prenez cette bonne habitude, quand vous êtes avec des convives ou avec des amis chrétiens, etc., toujours porter un toast à la Vierge. Ça ne fait jamais de mal et c'est une façon de se rappeler d'elle.
C'est jamais oublié, ça.
Parfait. Merci, Barbara.
Merci. Et voilà, 382-5913, 382-5913. Et voilà, vous êtes en onde, on vous écoute. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Simone.
Bonjour, Madame Simone.
Alors, voyez-vous, je veux dire à M. Nicolas, je crois.
Il s'appelle Melham Mubarak.
Oui.
C'est pas un Irlandais, comme vous voyez. Melham Mubarak.
Oui. Alors, j'ai par devers moi, justement, le beau livre des messages de Jésus-Marie à Sophanie. Souvenez-vous de Dieu. Il doit certainement connaître ce volume.
Ah oui, très bien.
Il est sur la table ici, là.
Ah bon, justement. Alors, je veux spécifier que le Seigneur aussi a choisi une autre messagère très précieuse qui nous a fait connaître Myrna. Et parce que moi, j'ai acheté mon livre à la suite de sa référence, puis il s'agit de Vasudha Raidan. Monsieur Charon, je sais que vous avez donné des avis tout à fait un petit peu regrettable sur cet homme extraordinaire.
Non,
je ne veux pas...
Non, moi non plus, là.
Je veux juste... laissez-moi juste dire un petit mot.
Je veux tout simplement vous dire que je ne peux pas accepter votre phrase que j'ai donné un avis. Ce que je vous ai livré une décision...
Oui,
de la commission de foi, alors moi, je vous ai livré ce que le Vatican a décidé.
Oui.
Je ne vous ai pas livré mon opinion personnelle, quoique je partage celle du Vatican. Oui.
Bon, d'accord. Monsieur Charon, si vous avez remarqué, ce document n'avait aucune signature.
Madame, on va changer de sujet. On parle de souvenir.
Alors, c'est très bien. On va parler de ça.
Voilà.
Et puis, c'est parce que c'est quand même... J'ai même sa photo de Myrna. Avec Vasudha. Elles ont été ensemble à Damas. Elles ont assisté à la messe.
Non, madame, je crois que vous vous trompez. La photo dont à laquelle vous vous référez, c'est celle qui a eu lieu...
Elle est dans le livre de Vasudha.
C'est celle qui a eu lieu au festival de Besançon.
Oui.
Et ce n'est nullement en Syrie. C'est à Besançon. Il y a eu à l'époque, il y avait eu une réunion œcuménique.
Oui.
Et puis, ils se sont rencontrés là-bas d'une manière...
Il y a eu le miracle de l'huile devant elle. Elle a assisté à la messe.
Alors voilà, madame, vous en venez où, là?
Pardon?
Où vous voulez en venir?
Je vais en venir qu'il ne faudrait pas oublier cet homme choisi par le Sacré-Cœur, qui a le même but que Myrna, de répandre l'écuménisme, de l'unité de l'Église et de tous les chrétiens.
Alors voilà, madame, ça c'est votre opinion. Comme vous savez, je ne la partage pas, mais ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup d'affection pour vous.
Mais vous allez voir, ça va triompher, monsieur. Ah,
on verra. Pour le moment, je vais maintenir ma prudence habituelle.
Monsieur Nicolas, vous ne la connaissez pas?
Mon nom, c'est Monsieur Mubarak.
Oui.
Je la connais de nom, comme je connais d'autres personnes, mais je suis uniquement habilité à parler de Soufanié aujourd'hui, et je ne connais que de nom la personne dont vous parlez, naturellement.
Et voilà.
D'accord.
Merci beaucoup, madame.
Alors, merci.
382-5913, 382-5913, et voilà, vous êtes en onde. Bonjour.
On vous écoute.
Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour, mon nom, c'est Alice.
Bonjour, Mme Alice.
Oui, moi, j'ai deux petites questions que j'aimerais vous poser. C'est que j'ai peut-être pas tout à fait bien compris. Je pense que c'est dans la deuxième lettre que vous avez lue, où est-ce que la Vierge, je crois, disait ceux qui vont à la messe ou à l'église, que de temps en temps... c'est en rapport avec cette phrase-là. Peut-être qu'il faudrait relire le contexte pour que je le comprenne bien. Pour moi, c'est venu me chercher parce que je vais pas à la messe aussi souvent que je voudrais...
Mais le texte ne vous dit pas de pas y aller, marquez bien.
Non, c'est sûr. Écoutez, même si je ne vais pas souvent, je vais y aller pareil.
Bon, écoutez, c'est la deuxième apparition.
Oui.
C'est le premier message du 18 décembre 1982.
Oui.
Bon, et puis là, il y a « Repentez-vous et croyez, et souvenez-vous de moi dans votre joie », une phrase qui me remue beaucoup. Ouais. « Annoncez mon fils l'Emmanuel, qui l'annonce est sauvé, qui ne l'annonce pas, sa foi est vaine », évidemment. Si on parle de la foi, on ne parle pas du Christ, on est à côté, c'est bien évident. « Aimez-vous les uns les autres.
Oui.
Je ne demande pas de l'argent à donner aux églises,
okay.
ni de l'argent à distribuer aux pauvres. Je demande l'amour. Okay. » Évidemment, si on a de l'amour, on va s'occuper des pauvres, c'est évident.
Okay, oui.
Bon, ceux qui distribuent leur argent aux pauvres et aux églises,
oui.
sans avoir l'amour,
okay.
ceux-là ne sont rien.
Okay.
Ça ressemble à un texte de saint Paul, hein?
Oui,
quand
oui.
même j'aurai la foi qui transporte les montagnes, etc., etc., si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
D'accord. Hein?
Ceux-là ne sont rien. Je visiterai les foyers davantage.
Oui.
Car ceux qui vont à l'église,
oui.
là, le mot est important, là, quelquefois,
oui.
ils n'y vont pas pour prier. Alors, il ne faudrait pas tout de même nous mettre dans le même sac, là. Hein? Il y en a qui y vont pour prier et célébrer l'Eucharistie. Hein? Et je ne demande pas que vous me construisiez une église, mais un lieu de prière. Et il fait tel que dans le cas de Soufanie, le lieu de prière qu'elle a choisi, c'est la maison de Myrna. Bon, sans rejeter l'église de la Croix, je pense, mais enfin, donner, ne privez personne de ceux qui demandent secours. Alors, vous pouvez très, très bien aller à la messe, madame, là, ils ne vous disent pas de ne pas y aller.
Non, il n'y a pas de... Non, c'est pas pour ça. L'autre question que je me posais, c'était par rapport à l'apparition avant la Pâque. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu plus d'informations? La Pâque du rassemblement ou... j'ai pas très bien compris, là. Jésus...
Jésus dit qu'il viendra lorsque la Pâque sera une, c'est-à-dire que lorsque les deux grandes traditions orthodoxes et catholiques fêtent la Pâque le même jour.
Ah.
Je pense que c'est ça. Hein?
J'aimerais dire à ce sujet, madame,
oui.
Que peut-être vous ne comprenez pas ça, mais en Orient... La fête de Pâques chez les orthodoxes, pour des considérations liturgiques et de calendrier, ils ne la célèbrent pas en même temps que les catholiques. Ce qui fait que malheureusement, pour parler en termes liturgiques, le Christ est littéralement crucifié deux fois. et c'est justement ce que le Christ ne veut plus.
Okay.
Et il dit, tu ne me verras plus avant que la fête de Pâques ne soit une. Il nous demande cela comme un compromis. Il dit, au moins si vous n'arrivez pas à unifier l'Église, au moins unifiez la fête de Pâques comme premier pas.
Ah, ben oui, ouais.
Parce que c'est la résurrection qui est le départ de l'Église. Hein?
Ben oui.
Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine.
Oui.
Bon, alors, il demande l'unité au moins de ce côté-là. Mais n'est-il pas vrai, M. Moubarak, que c'est en 2002 ou 2005 ou quelque chose comme ça que le calendrier liturgique orthodoxe et le calendrier liturgique catholique, si l'on veut,
coïncident. En effet, c'est en 2001... que la prochaine Pâque sera unifiée entre catholiques et orthodoxes, mais la façon dont le Christ et la Vierge l'ont dit à Myrna ne veut pas nécessairement dire que la fête ne sera pas unifiée avant. Avec les efforts œcuméniques et même les efforts de conciliation qui se font de part et d'autre, il est à souhaiter, et j'espère qu'il sera probable, que la fête de Pâques soit célébrée avant l'an 2001. Mais disons qu'au plus tard, ce sera en 2001.
La démarche œcuménique est accélérée, si l'on veut,
okay.
de ce côté-là actuellement.
D'accord. Ben, je vous remercie infiniment.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, madame.
Au plaisir de vous trouver à l'église. Alors, nous voilà de retour à la tribune téléphonique de Oui, la joie, ça s'apprend, notre invité aujourd'hui, M. Mélam Moubarak, qui vient nous parler du phénomène des apparitions de Damas, vient nous parler de Notre-Dame de Soufanié. Et nous sommes là, à la tribune téléphonique. Nous avons parlé déjà des messages, des apparitions, des phénomènes. Et j'ai dit que j'avais vu des vidéos, que j'avais lu des témoignages, que j'avais lu des témoignages scientifiques aussi. L'authentification des phénomènes par les hommes de science et la cohérence théologique de ces messages, de sorte que, personnellement, je sais bien que ça n'engage pas la foi de toute l'Église, ça demeure une opinion personnelle. Et que ça demeure aussi une révélation personnelle, tant et aussi longtemps que l'Église ne s'est pas exprimée. N'en demeure pas moins que la hiérarchie locale, y compris le nonce apostolique, à titre privé quand même, mais le nonce apostolique est un fervent, si l'on veut, vient souvent prier à Soufanié, le nonce apostolique à Damas. Alors, pour toutes ces raisons, mais notamment pour la qualité du message et la convergence, la cohésion théologique, ce qu'on ne trouve pas toujours dans d'autres apparitions, à ce qu'on me dit, à ce que je sais d'ailleurs après les avoir lus. Alors, je personnellement adhère, et c'est pour ça que
à la stupéfaction de plusieurs, Gilbert Charron a accepté d'accueillir et de parler avec vous et d'échanger avec vous sur Notre-Dame de Souffagnier. Décision que j'ai prise et que je reprendrai de nouveau et que je reprendrai de toute façon, on viendra là-dessus. Voilà, voilà, vous êtes en onde à 382-5913, 382-5913.
Oui.
Voilà, on vous écoute, madame.
Oui, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Félicitations pour l'émission, les belles émissions de Radio Ville-Marie.
Merci.
Je m'appelle Annette Habib. Je suis extrêmement croyante et j'ai rencontré personnellement Myrna à plusieurs reprises lors de son séjour à Montréal en 93. Et puis j'ai vu de mes propres yeux l'huile exsudée de ses mains et j'y crois fermement. Il y a cependant une question que j'aimerais poser à M. Moubarak.
Allez.
Oui. Dites-moi, lors de son message, du message de la Vierge, en 82, il est tellement long, ce message. Comment Myrna a-t-elle pu le retenir?
Oui, c'est une bonne question, madame. Myrna, en fait, ne l'a pas retenu. Myrna le récitait au fur et à mesure. Elle récitait chaque phrase au fur et à mesure. Et alors, le père Malouli et le père Zahlaoui, ou je crois que le père Zahlaoui, prenaient note au fur et à mesure. À l'époque, je crois qu'il n'y avait pas encore d'enregistreur. Par la suite, ils ont enregistré les messages pendant qu'elle les prononçait. Mais au début, je crois que ça a été pris manuellement. Mais alors, pour répondre à votre question, elle répétait phrase par phrase ce que la Vierge lui disait.
C'est-à-dire, elle ne l'a pas écrit sous sa dictée, non?
Elle ne l'a jamais écrit, non. Il y a eu des gens qui se sont chargés de l'écrire pour elle. Elle était en extase à l'époque, quand elle voyait la Vierge.
Oui. Je vous remercie, M. Moubarak.
Moi aussi,
et
madame.
Bon courage.
Merci.
Merci.
Nous avons une demande à la réception de Radio Ville-Marie. Il y a une demande que soit répétée, redite cette prière de Marie. C'est ça?
Prière que Jésus.
Prière que Jésus nous demande ou a demandé à Myrna de nous dire de prier cette prière. Et j'invite tous nos auditeurs et auditrices à un instant de recueillement pendant que M. Moubarak relit cette prière ou nous.
Oui, c'est un message du Christ qui a été demandé, n'est-ce pas, qui a été dit à Myrna à l'occasion du jeudi de l'Ascension. En date du 31 mai 1984. Et il lui avait dit au début, « Ma fille, je suis le commencement et la fin, je suis la vérité, la liberté et la paix. Ma paix, je vous la donne, que ta paix ne repose pas sur la langue des gens, que ce soit en bien ou en mal, et pense du mal de toi-même. Celui qui ne cherche pas l'approbation des gens et ne craint pas leur désapprobation jouit de la paix véritable, et cela se réalise en moi. Vis ta vie douce et indépendante. Que les fatigues entreprises pour moi ne te brisent pas. Réjouis-toi plutôt. Je suis capable de te récompenser. Tes fatigues ne se prolongeront pas et tes douleurs ne dureront pas. Prie avec adoration, car la vie éternelle mérite ses souffrances. Prie pour que s'accomplisse en toi la volonté de Dieu et dis, bien-aimé Jésus, accorde-moi de me reposer en toi, par-dessus toute chose, par-dessus toute créature, par-dessus tous tes anges, par-dessus tout éloge, par-dessus toute joie et exultation, par-dessus toute gloire et dignité, par-dessus toute l'armée céleste, car toi seul es le Très-Haut. Toi seul es puissant et bon par-dessus tout. Viens à moi et console-moi et délie mes chaînes, et accorde-moi la liberté, car sans toi, ma joie est incomplète. Sans toi, ma table est vide. » Et à ce moment, le Christ ajoute, « Alors je viendrai pour dire, me voici venu, car tu m'as invité. »
Amen. Alors voilà, nous pouvons, vous pouvez obtenir le texte de cette prière en écrivant à Radio Ville-Marie. Vous envoyez une enveloppe affranchie avec votre nom et adresse, bien sûr, pour qu'on puisse vous la renvoyer.
Bonjour.
On vous écoute. Bonjour.
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 Ah bon, ben moi, la joie est dans mon cœur.
Votre petit nom, c'est quoi?
Pierrette.
Pierrette.
Oui.
Alors bonjour, Pierrette.
Bonjour.
C'est vrai que vous avez de l'air... Comme on dirait en bon français, vous avez l'air boosté pas mal.
Oui, pas mal.
Ouais.
Mon cœur est dans la joie, puis pour ça, je porte un toast à Marie. Je te salue, Marie.
Oui.
Yay! non, c'est une belle joie pour moi, puis je suis bien contente. Vive Marie, vive Radio Ville-Marie aussi. Oui, 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 la joie, ça prend.
Ce que je veux dire, c'est que ce matin, mon copain m'a appelé pour me dire qu'il me fiançait le 29 là, janvier, lundi, là.
Mm-hmm.
Fait que, wow! Uh-huh. Je suis contente.
Ouais, on est content pour lui. J'ai l'impression qu'il ne s'ennuiera pas.
Oh! Puis là, avec le message que je reçois aujourd'hui avec vous deux,
mm-hmm.
Ben, je suis Colin, je suis contente parce que Marie, elle vient te dire, vas-y, Pierrette, elle est avec toi. Aïe, 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 fait que là, je suis ben contente. Elle m'encourage, puis aussi à la prière, là. Faut pas oublier, parce qu'on est mariés et des enfants, qu'il faut pas oublier la prière. Fait que c'est un rappel pour moi, ça, ça me remplit de joie. Puis, c'est ça, puis je voulais partager ça avec vous autres.
Merci, Mme Pierrette. Nous vous souhaitons tous les vœux de bonheur que vous méritez.
Ben, merci. Bye-bye.
Voilà, bonjour. Et voilà, d'énergie, hein, d'énergie. 382-5913, 382-5913, et voilà, vous êtes en onde, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
C'est mon tour?
Oui, c'est votre tour.
Bonjour, je m'appelle Salem, je suis d'origine syrienne. J'ai visité la Sophanie plusieurs fois. Il y a quelque chose que je n'ai pas pu comprendre. C'est un message où il dit que je vous ai créé pour que... Comment c'est? Pour qu'il me crée?
Je vais vous la relire, M. Salem, une seconde.
Oui.
Alors, c'est un message, n'est-ce pas? Mazbout. Je vais parler en français, cependant.
Oui.
C'est un message du Christ.
C'est parce que Gilbert ne comprend pas l'arabe, vous comprenez?
Oui.
C'est un message du Christ en date du 7 septembre 1985. Il dit à Myrna, je suis le Créateur.
Oui.
Je l'ai créé pour qu'elle me crée.
Il a créé Marie, afin que Marie le porte et lui donne la vie. C'est
oui,
ce que ça veut
Marie
dire.
Marie a créé Jésus.
Mais non, c'est Jésus qui a créé Marie.
C'est parce le Père qui a créé Marie, et Marie a créé Jésus, le Fils.
Non, mais Marie n'a pas créé Jésus. Parce que Jésus
elle lui a donné
créé.
La vie.
Elle lui a donné la vie, elle
oui,
l'a pas créé.
Oui, mais ce n'est pas créé. C'est créé que parce qu'ils disent créé, j'ai créé.
Voyez,
le Père, Dieu le Père est créateur. Je crois en Dieu le Père.
Créateur.
C'est ça, créateur.
Il n'a pas créé
Alors,
Jésus.
Alors Dieu a créé Marie.
Elle a créé Marie, c'est sûr.
C'est ça.
Mais Marie n'a pas créé Jésus.
Qui à son tour a donné la vie à Jésus. Et on appelle ça de la procréation, mais si vous tenez au mot, oui, on pourrait peut-être corriger le texte, mais je pense bien qu'on va laisser Marie dire ce qu'elle a à dire, et le Christ aussi. Voilà, vous avez autre chose?
Oui, s'il vous plaît. Il y a une autre question. Ici, à Montréal, on dit que la Vierge apparaît la même chose qu'à Myrna, à Madame Morin. Numéro de téléphone 421-4437. Et l'huile coule d'une manière incroyable. De toutes les images, c'est à peu près, j'ai visité Sophanie, j'ai visité Morin aussi, c'est à peu près la même chose.
Et voilà. Alors,
est-ce
écoutez,
que c'est vrai, ça?
Non, M. Moubarak a pris des notes là-dessus, et il verra. Là, c'est vrai qu'il y a des icônes de Notre-Dame de Sophanie qui ont ce phénomène. Et semble-t-il, il y en a à Montréal. Je ne sais pas si celle dont vous parlez est connue, mais enfin, il y en a. Il y en a à Ville-Saint-Laurent, semble-t-il aussi.
C'est à enfin. Sunnybrook, de l'art de Germont, 1609.
Alors,
Sunnybrook.
M. Moubarak, le numéro de téléphone, il vérifiera.
OK.
Vous avez autre chose?
C'est la même chose que Myrna?
Je ne suis pas au courant de cette histoire. Tout ce que je peux dire, moi, c'est que je parle du phénomène de Soufanié, qui n'est pas seulement une exudation d'huile, parce qu'une exudation d'huile toute simple ne veut rien dire si elle n'est pas accompagnée de phénomènes ou de messages ou bien d'une certaine portée évangélique.
Oui, parce que j'ai parlé à Mme Morin. Elle ne connaît pas Sophanie, elle ne connaît pas Damas, elle ne connaît rien de
D'accord.
toutes ces choses.
Moi, je suis là aujourd'hui pour parler de Sophanie. Je ne suis pas au courant des autres phénomènes dont vous parlez, malheureusement,
oui,
monsieur.
Oui, je crois que le Sophanie, c'est là-dedans.
Pardon?
La Sophanie. C'est chez elle encore, c'est la même chose que Damas.
Je ne sais pas, je ne suis
enfin,
pas au
faudrait
courant.
Il faudrait voir, M. Moubarak va vérifier, oh. il parlera par la suite.
Okay.
Alors, il ne peut pas parler de ça aujourd'hui, là, il sera ici un autre 15 minutes, et voilà. Alors, nous passons à un autre appel. Voilà, merci beaucoup de ce témoignage et de ces questions. Alors, voilà, 382-5913, 382-5913, vous êtes en onde, on vous écoute.
Oui, bonjour, M. Charon.
Bonjour, madame.
Je voudrais dire bonjour aussi à votre invité.
Bonjour, madame.
Et puis, moi aussi, j'ai été très émue là, d'entendre les beaux messages d'amour. C'est le cas de le dire, c'était divin, vraiment. Là. Pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche que c'est vraiment le Seigneur qui est venu nous adresser la parole. C'est lui qui vient nous dire la profondeur de son amour et la simplicité de son amour aussi. Puis moi, je suis pas une personne qui, de prime abord, va croire à n'importe quelle apparition, même des apparitions qui peuvent être, entre guillemets, là, très populaires. Là, je suis méfiante, moi aussi.
Ah bon, puis, comme ça, je suis pas le seul.
Non, vous n'êtes pas le seul. Puis ce qui me met toujours la puce à l'oreille de comme quoi il faut que je sois méfiante, c'est justement souvent des messages ambigus et des messages... à l'esprit sectaire ou culpabilisant, puis parfois même violent, du genre, on dit que Marie retient les bras de son fils pour pas qu'il extermine la terre, des choses comme ça. Moi, je suis complètement allergique à ça.
C'est ce que j'appelle une théologie tout coloche.
Oui, puis moi, c'est ça que j'ai trouvé tellement beau dans les messages, c'est que j'ai trouvé que c'était plein de vérité, plein d'amour, puis plein d'esprit d'évangile. Puis moi, quand j'entends ça, bon, c'est sûr que l'Église s'est pas encore prononcée, mais après ma barre, quand même que ce serait juste pour les messages, moi, les messages que j'ai entendus qui proviennent de Jésus et de Marie, qu'on dit que ça provient de Jésus et de Marie, pour moi, ça touche mon cœur, ça résonne à quelque chose de vrai. Alors, je suis portée à croire à ces choses-là parce que ce sont des messages qui apportent beaucoup, puis c'est ça que je voulais dire.
Et qui nous révèle un Dieu d'amour, de justice, de compassion, de pardon et d'espérance.
Oui.
Et un Dieu qui veut qu'on soit dans la joie, et que lorsqu'on a de la joie, et lorsqu'on a du bonheur, qu'on se souvienne de lui. En d'autres mots, qu'on ne prenne pas pour un dépanneur universel.
Exactement, parce que je trouve ça dommage qu'on se serve souvent des apparitions de Marie à toutes les sauces, là, pour passer n'importe quoi, d'hérétique finalement.
Alors, madame, on vous remercie pour... vous félicite pour cette prudence et on vous remercie pour ce témoignage.
Ben, moi, je vous remercie aussi d'avoir fait cette émission-là, parce que vraiment, là, ça me touche beaucoup, puis je suis heureuse que le Seigneur puisse faire... une vraie apparition à quelque part.
Alors, écrivez-nous, on vous enverra cette prière.
Oui,
elle enrichira déjà votre dossier de prière, c'est toujours bon de...
Oui, ça, c'est certain que c'était déjà prévu d'avance.
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup,
madame.
Bonjour.
Au revoir.
Alors, 382-5913, 382-5913, et voilà, vous êtes en onde.
On vous écoute.
Vous êtes là, M. Charon?
Oui.
Bon, alors, je voulais simplement poser une question. Je voulais savoir si la première partie de votre émission était enregistrée.
Comme fait
M. Beaugrand-Champagne.
C'est-à-dire que c'est enregistré, oui. Maintenant, c'est pas enregistré pour être distribué.
Ah bon, parce que là, j'enregistre la deuxième partie, mais j'ai pas pu enregistrer la première partie, mais c'est cette partie qui m'intéresse. Moi.
Ah bon. Écoutez, si vous voulez, si vous êtes un bon veilleur de nuit,
oui.
C'est qu'il y a une reprise, je pense que ça passe de 3 à 5, quelque chose comme ça, cette nuit.
Oh, il faudra que je me réveille à cette heure-là.
Faudra que vous vous réveillez à cette heure-là.
Alors, M. Charon, félicitations pour cette émission, c'est merveilleux.
Bon, vous avez quelque chose à demander à M. Moubarak, un commentaire à faire, quoi?
Non, je voulais tout simplement dire que ça serait assez pour convertir des pierres, ce message-là.
Et en tout cas,
je voulais le féliciter. Et félicitations à vous, M. Charon.
Pour ébranler le mini-théologien que je suis quand même, là, et puis j'aime mieux être ultra prudent que crédule.
Oui.
Je donne mon adhésion au phénomène de Souphanier, qu'il y a toute une convergence d'arguments qui milite en faveur de cette réalité-là, donc de la vérité de ce phénomène. Ce qu'on ne trouve pas toujours, hélas, dans d'autres qui suscitent quand même des emballements de la part de certaines gens. Alors voilà.
Et alors moi, je fais confiance à votre intelligence. Merci beaucoup.
Oui, mais informez-vous, hein, il y a de l'information quand même aux adresses que vous avez là.
Oui, bien là,
l'information sur le phénomène.
J'ai tout enregistré en deuxième partie, alors ça va aller pour cette partie-là. Puis si je peux m'éveiller à 3 heures, j'enregistre l'autre. Merci.
Merci, monsieur.
Merci. Bonjour. Oui, on n'a pas l'habitude de d'enregistrer et de mettre en vente les cassettes de mes interviews. Quoi qu'il faut dire que lorsque je m'absente, quelquefois, on repasse les interviews qui ont été faites. Alors, 382-5913, 382-5913, et voilà, vous êtes en onde, on vous écoute. Bonjour.
Bonjour, c'est Irène qui parle.
Bonjour, Mme Irène.
Bon, ça va bien?
Très bien, merci.
Bon, je suis très, très heureuse de ce que vous me donnez aujourd'hui, parce qu'on a tellement les oreilles cassées par tous les siècles, là, ça finit plus. Bon, ouais. Moi, je veux vous donner un renseignement. C'est que moi, j'ai cherché une heure de temps le Mont-Cassin. Je suis pas de ce coin-là, hein, mais je voudrais que vous disiez au moins que c'est à l'ouest de Meilleur et parallèle à Fleury. Parce que moi, j'étais rendue sur Saint-Hubert,
ah bon?
Contraire.
OK, je vais le dire, alors.
S'il vous plaît.
OK, merci. Mont-Cassin, le Mont-Cassin, c'est
à
une
l'ouest
petite
de Meilleur,
rue.
Oui.
C'est une petite rue, en fait, là, c'est le presbytère de la paroisse Saint-Benoît.
Oui, mais il faut connaître
la paroisse Saint-Benoît, est ici, est au 500 Ouest Saint-Laurent.
Oui.
500 Ouest Fleury.
Fleury, oui.
Donc, un petit peu à l'ouest de Saint-Laurent.
Bon, j'avais des cassettes à
bon, et en arrière, mais lorsqu'on a bâti l'église, on a mis le presbytère en arrière, on a ouvert une petite rue.
Ah bon,
sur cette rue se trouve l'école et le presbytère.
Mm-hmm.
Et ça s'appelle le Mont-Cassin, parce que c'est sur le Mont-Cassin que Saint-Benoît a fondé.
Oui.
Le monarchisme.
Bon, ça va.
Bon, alors, c'est qu'en fait, là, c'est parallèle, donc, au sud de Fleury, entre Tanguay et Meilleur.
Bon, merci beaucoup, beaucoup.
OK, c'est à 505 du Mont-Cassin.
Oui, merci.
OK, au voilà. Au alors, voilà, vous êtes en onde après ces commentaires géographiques. On vous écoute. Bonjour.
Aaron?
Bonjour.
Bon, oui, je trouve ça très intéressant, tout ce que vous dites au sujet de la Sainte Vierge Jésus. Je crois à tous ces messages-là, comme à Médicorier. Donc, c'est des messages d'amour, quelque chose qui nous fait bien du bien, beaucoup de bien. Mais moi, j'avais une question, je ne sais pas si c'est à point d'en parler aujourd'hui. Ça fait longtemps que je voulais vous appeler. C'est au sujet de, dans le Deutéronome, quand ils disent, ben, je pense que je vais parler des apparitions là-dedans. Dans le Deutéronome, quand ils disent que la femme ne porte pas d'habit d'homme et que l'homme ne porte pas d'habit de femme, les bérets blancs, la secte ou le mouvement des bérets blancs mettent ça dans leur journal puis disent abomination aux femmes qui s'habillent en pantalon. Puis moi, je cherche dans les messages de Jésus puis de Marie, puis il n'y en a jamais qui dit à la femme de ne pas porter.
Oh, madame, pantalon. Franchement, là, le Dieu auquel je crois est ce Christ incarné, mort et ressuscité, vivant, présent. Dans ma vie, il y a bien d'autres choses à faire que savoir si mon épouse porte des pantalons ou une jupe. Je pense qu'il est beaucoup plus préoccupé par le fait que nous cherchons la justice, la vérité, la paix, et que nous avons de l'amour pour ceux qui souffrent, et que nous appliquons dans notre vie Matthieu 25, notamment. J'avais soif, j'avais faim. Alors, on va laisser d'autres gens là, s'enfarger,
oui.
s'enfarger dans des versets du Deutéronome.
Oui, je vais vous dire, mais M. Charon, c'est terrible parce que c'est les gens qui croient à ça, vers demain, qui mettent ça, là, ils ne laissent même pas rentrer leur propre fille dans leur maison. Les parents refusent l'entrée de la fille qui est en pantalon.
Alors, que voulez-vous? Ça veut dire que...
Dans le Deutéronome, ils ne parlent pas de pantalon, d'accord?
Bon,
dans ce temps-là, Jésus ne portait pas de pantalon, c'était des grandes robes.
Oui, mais enfin,
alors, je sais pas
Madame, de grâce, orientez votre foi sur l'essentiel, puis je vais vous rappeler quelque chose. Là. Ne faites pas du mauvais sang là, pour ce que d'autres pensent et croient, parce qu'il y a un bon vieux jésuite qui m'a déjà dit, tu sais, Charon, il y a deux infinis. Il y a l'infini amour et miséricorde de Dieu, puis il y a l'infini bêtise de l'homme. Il n'y a pas de bêtise qu'on n'est pas capable d'inventer. Alors, si vous laissez bouleverser chaque fois qu'il y a quelques niaiseries de cet ordre qui vous... Non, tenez-vous-en là, à l'Évangile, le Matthieu 25, les textes de saint Paul, l'hymne à la joie.
Mm-hmm.
Vous allez être... oui, tenez-vous-en. Tenez-vous-en là, au « Je crois en Dieu », puis tenez-vous-en à la fréquentation des sacrements et à l'exercice de l'amour, hein, puis portez donc des pantalons si ça fait votre affaire.
Ah ben, ça va faire du bien,
plusieurs
femmes aussi.
Oui, bien, j'espère, hein, pour ce
qu'on
fait, là.
Oui, bien, merci.
On a marché sur le dos de la foi, là, qu'on nous lâche avec des mangeoires, qu'on nous lâche avec ça.
Oui.
Hein, parce qu'il faut que je pratique la charité, moi aussi, autant que possible.
Oui. Merci beaucoup, M. Charon. Je vous félicite pour votre beau programme de tous les jours.
Voilà, madame.
Au revoir.
Okay. 382-5913, 382-5913. Oui, la joie, ça s'apprend. Nous avons la joie de découvrir Notre-Dame de Souffagnier. Bonjour, vous êtes en onde. Bonjour.
Oui.
On vous écoute, madame.
Ah bon, bonjour, ici Gisèle.
Bonjour, madame Gisèle.
Vous allez bien?
Très bien.
Bon.
Ça marche comme c'est amené, puis c'est bien amené.
Oui, je sais. Je voulais simplement vous dire que je suis très heureuse de voir que Marie a choisi un couple avec des enfants, qu'elle n'a pas signalé la nécessité que la personne se cloître, etc., etc. Je trouve que c'est d'une humanité extraordinaire et puis que ça fait peut-être partie là, de tout ce que, qui nous, nous emballe peut-être un peu, là, c'est de voir jusqu'à quel point le Seigneur et Marie sont près des couples et des familles.
Et respectueux de, ce, de cet état de vie.
Oui, de leur état de vie.
Monsieur Mourbarak pourra peut-être nous rappeler le texte comme tel lorsque...
Très beau, très
lorsque
beau.
Lorsque Myrna demande à Marie si elle devrait rentrer au cloître, et puis elle, je me souviens bien, c'est « Vis ta vie ».
Oui, et ça, je trouve que c'est la plus belle confirmation là, du couple.
Oui, et c'est une des raisons qui ont apporté mon adhésion aussi. Une autre raison qui a apporté mon adhésion, c'est le fait qu'on refuse tout argent. Hein, parce que ça m'énerve, je dois dire que des apparitions payantes, là, je trouve ça fatigant un peu.
Oui, bonjour madame. Oui, en effet, Monsieur Charon, vous avez raison de parler de la gratuité de Soufanié. Ça, c'est la première chose qui est affichée à l'entrée de la maison, c'est qu'ils n'acceptent aucun don ni offrande. Mm-hmm. Pour revenir à au message de la Vierge concernant ce que vous disiez, madame, c'était le vendredi 25 novembre 1983.
Oui, je trouve ça extraordinaire.
Elle dit, écoutez bien le texte.
Elle dit, voilà tout ce que je veux, je ne suis pas venue séparée, ta vie conjugale restera comme elle est.
Je trouve ça extraordinaire.
Oui, et puis plus tard, elle lui dit, « Vis ta vie, cependant que la vie ne t'empêche pas de continuer à prier.
»
Et puis, pour confirmer tout ça, naturellement, quand on est marié, on a des enfants, en principe, elle lui dit, « Ma fille, je te donnerai un cadeau pour tes fatigues. » Ça faisait à peu près 3 ans qu'elle était mariée, n'avait pas encore eu d'enfants. Et puis, 6 mois plus tard, ou bien quelques mois plus tard, elle devait donner naissance à la petite Myriam. Mm-hmm.
Et puis sur ces paroles, je lève mon verre à Marie, je la remercie avec beaucoup de joie, et je remercie surtout M. Charon de se donner tant de troubles pour nous aider un peu dans cette voie qui est l'œcuménisme, mais qui est très importante.
Ce que je dois vous dire, madame, c'est que tous et toutes qui appelaient, vous m'aidez aussi, hein?
Il faut
On fait une bonne famille, nous cheminons. Nous entendons pas toujours, mais ça va.
Merci beaucoup parce que vous nous ouvrez les oreilles, le cœur surtout.
D'accord.
C'est très important.
Alors,
merci.
Vous me touchez profondément.
Bonjour.
Alors, nous n'aurons pas le temps de prendre d'autres appels. Je regrette pour ceux qui sont là en ligne. Monsieur Mourbarak, dans cette minute et demie, quel message voulez-vous nous laisser là, face à tout ce phénomène qui est quand même complexe, il y a plusieurs aspects, là, mais lorsque vous allez au cœur de Soufanié, là, qu'est-ce que vous dites?
Au cœur de Soufanié, je dirais surtout, je mettrai l'accent sur l'unité de l'Église, ce scandale permanent qui est la division actuelle des chrétiens entre eux. Et si nous sommes divisés entre nous, comme l'a dit le Christ dans l'Évangile, une maison divisée sur elle-même va finir, ne peut pas rester telle qu'elle. Il faut absolument, si nous voulons servir d'exemple au monde non chrétien, nous devons demeurer et devenir et nous réunifier. Et c'est le vœu le plus cher du Christ et de la Vierge dans les messages qu'ils ont donnés à Myrna de 1982 à 1990.
Toujours, je rappelle que vous pouvez obtenir la prière de Notre-Dame de Soufanié. Il y a d'autres événements. Une messe d'unité en rite byzantin, le mercredi 31 janvier, à 7h p.m. en l'église Good Shepherd, 7900 rue Naples, N-A-P-L-E-S, Brassard, prendre le pont Champlain, sortie numéro 8 vers la prairie, deuxième lumière à gauche. Alors voilà, il y a une messe pour l'unité des chrétiens le 31 janvier, et c'est une messe en rite byzantin, donc le catholique oriental. Voilà. Alors moi, je vous dis, comme à l'accoutumée, j'ai écrit ton nom dans le sable, mais la vague l'a effacé. J'ai gravé ton nom sur un arbre, mais l'écorce est tombée. J'ai incrusté ton nom dans le marbre, mais la pierre a cassé. J'ai enfoui ton nom dans mon cœur et le temps l'a gardé. D'ici demain, n'oubliez jamais, mais jamais, que oui, la joie, ça s'apprend.